Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Ça me paraît à ce moment-là légitime. Les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, acceptent de s'isoler pendant cette période pour qu'on ait le temps de vacciner le reste de la population et de mettre toute la population à l'abri.
Faut-il demander aux plus âgés et plus fragiles de se confiner en attendant les vaccins? Le débat ressurgit, l'idée est à nouveau portée par le Conseil scientifique. Pfizer menace de réduire encore ses livraisons de vaccins après la recommandation européenne de prélever une sixième dose dans un flacon de 5. Le labo américain envisage de baisser le temps sa commande de flacons, c'est-à-dire moins 16%. Emmanuel Macron auprès des étudiants en souffrance. Il est ce matin sur le plateau de Saclay pour présenter un plan d'investissement dans les technologies quantiques. Les premières heures de Joe Biden à la Maison-Blanche, retour des conférences de presse quotidiennes, et puis une enquête ouverte dans le Val-d'Oise. Une jeune femme de 23 ans accuse les forces de l'ordre d'être responsable de sa fausse couche après une interpellation musclée. Invité d'Europe Midi, le cinéaste Thomas Lilti, réalisateur de la série Hippocrate ou de Première année au cinéma, qui a retrouvé sa vocation de médecin pendant la crise sanitaire et qui raconte son expérience dans un livre, Le Serment, chez Grasset.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
S'il y a plus de doses dans les flacons, alors il y aura moins de flacons dans les congélateurs. Voilà la position de Pfizer qui devrait nourrir une nouvelle controverse. Les flacons de 5 doses livrés par Pfizer contenant de quoi en faire une sixième, l'Agence européenne du médicament avait recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher. Mais voilà que le laboratoire américain décide du coup de réduire ses livraisons en arguant qu'on lui a acheté des doses et pas des flacons, Victor Delande.
Oui, la Commission européenne a commandé au total 600 millions de doses. La quantité sera bien livrée, nous assure le laboratoire américain. En revanche, Pfizer a décidé de diminuer d'un sixième le nombre de flacons livrés. Lorsqu'il en fournissait jusqu'à présent 20 pour 100 doses, comprenez 5 doses par flacon, ce sera désormais 16,6 flacons qui seront envoyés, nous explique le ministère de la Santé. Sauf que dans les centres de vaccination, pour le moment, on continue de prélever le plus souvent que 5 doses, comme l'explique le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
On essaye de faire 6 doses, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire, mais on ne peut le faire que dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est quand on a le bon matériel, et le bon matériel n'est pas toujours disponible. La DGS, en quelque sorte, n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'elle fournisse le bon matériel partout. La question, c'est quand ce matériel va-t-il arriver ? Parce que tant qu'il n'arrivera pas, on n'arrivera pas à faire 6 doses dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on va vacciner globalement moins de personnes.
Ces seringues et ces aiguilles spécifiques ne sont pas disponibles pour le moment dans tous les centres de vaccination. Les fiches techniques mises à disposition des professionnels de santé vont être actualisées, nous assure la Direction Générale de la Santé, pour adapter les prélèvements dans le flacon. Mais déjà, la prochaine inquiétude, je vous l'annonce, c'est la disponibilité de ces seringues sur un marché mondial très tendu, car tous les pays vont vouloir acheter en grande quantité ce matériel dans les prochaines semaines. La pénurie guette. Après la pénurie de vaccins, attention à la pénurie de seringues.
Victor Delande, voilà donc pour la polémique à venir. Au chapitre des vieilles controverses qui ressurgissent, l'idée d'un confinement pour les seules personnes âgées et fragiles. Vous vous souvenez du tollé en avril dernier quand le professeur Delfraissy avait suggéré de garder les seniors à la maison pendant des mois? Eh bien, le conseil scientifique y est revenu dans son dernier avis paru en fin de semaine dernière, avec une recommandation forte d'autoconfinement pour des sujets âgés et fragiles. Une alternative au confinement général, soutenue par plusieurs scientifiques, Romain Oquet.
Oui, parce que les scientifiques le disent, on est aujourd'hui dans un contexte très différent de celui du printemps. Déjà, la circulation des nouveaux variants va aggraver l'épidémie dans les prochaines semaines, bien au-delà des 20 000 cas par jour. Aussi parce que, grâce au lancement de la campagne de vaccination, ce confinement des plus âgés, dit le conseil scientifique, serait limité à quelques semaines, le temps de recevoir la précieuse injection. C'est ce qui rend cette option envisageable, crédible, explique Gilbert Deray, chef de service à la Pitié-Salpêtrière.
Si on continue un programme de vaccination intense, et si ça ne dure que 2 à 3 mois, ça me paraît à ce moment-là légitime. D'un côté, on vaccine ces personnes en priorité, et de l'autre côté, ces mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, acceptent de s'isoler pendant cette période pour qu'on ait le temps de vacciner le reste de la population et de mettre toute la population à l'abri.
Un confinement ciblé qui éviterait aussi de mettre à nouveau le pays à l'arrêt en fermant les commerces, les écoles. Alors cette décision concernerait quand même près de 15 millions de personnes si l'on prend les plus de 65 ans et les personnes avec une pathologie à risque. Un sujet pour l'instant balayé par Matignon. Cela créerait une rupture d'égalité, dit un conseiller. Comme au printemps, l'option n'est pour le moment pas sur la table du gouvernement.
Romain Noquet, les dépistages massifs ne le sont pas du tout. La campagne qui s'est achevée hier à Saint-Étienne n'a permis de tester que 4% de la population, moins de 7000 habitants. Même échec la semaine dernière à Roubaix. Environ 5% des habitants se sont déplacés. Emmanuel Macron au campus. Le président présente ce matin sur le plateau de Saclay, près de Paris, un plan d'investissement national d'1,8 milliard sur 5 ans dans les technologies quantiques, appelé à transformer l'informatique et l'industrie. C'est aussi l'occasion, on va en parler dans un instant avec Louis de Ragnel, de parler aux étudiants, population en détresse. Mais le président de la République a aussi eu quelques phrases pour évoquer justement les controverses en cours sur le plan sanitaire.
Chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation.
Emmanuel Macron, à l'instant, en discours sur le plateau universitaire de Saclay. Je le disais, Louis Dragnel, c'est l'occasion pour le chef de l'État de parler aux étudiants, de les rencontrer autant qu'il est possible, peut-être pas directement, étudiants, population en détresse.
Oui, cours à distance sans fin, absence de relations sociales et de perspectives d'avenir, précarité financière. La liste des souffrances évoquées par les étudiants est longue, suffisamment longue en tout cas pour qu'Emmanuel Macron se saisisse personnellement du sujet. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, le président avait reconnu qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Alors, il rencontre dans quelques minutes plusieurs étudiants sur le plateau de Saclay dans les Yvelines pour essayer de répondre au problème. La semaine dernière, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé le retour lundi prochain des travaux dirigés en demi-groupe. Et comme nous l'avons annoncé ici même, le gouvernement devrait aussi mettre en place un chèque pour que les étudiants qu'ils souhaitent puissent bénéficier sans avance de frais de 3 consultations chez un psychologue. Vous l'avez compris, les étudiants vivent de plus en plus mal cette crise sanitaire où l'héroïsme consiste à rester chez soi. Et Emmanuel Macron ne souhaite pas que la déprime étudiante se transforme en crise politique.
Louis de Ragnel.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite. Enquête ouverte sur une interpellation qui aurait provoqué une fausse couche et les premières heures de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les accusations sont graves et un juge va enquêter puisqu'une information judiciaire vient d'être ouverte. Une jeune femme de 23 ans qui était enceinte de 4 mois et demi affirme que l'interpellation musclée d'une policière en décembre à Garges-lès-Gonesse lui a provoqué une fausse couche, Gladys Laffitte.
Oui, Déborah est alors avec sa cousine. Elle se dirige vers la sortie d'un centre commercial. Elle ne porte pas de masque, alors 2 policiers les verbalisent. En s'éloignant des fonctionnaires, la cousine aurait dit des insultes. Elle est alors interpellée. Déborah s'interpose et dit avoir été brutalisée par l'une des policières.
Elle m'a attrapée par le bras. Elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais « je suis enceinte ».
Voilà, Déborah affirme avoir ensuite été secouée par cette même policière pour qu'elle s'excuse. 2 jours plus tard, la jeune femme est hospitalisée et finit par faire une fausse couche. Pour elle, ça ne fait aucun doute, il existe un lien de causalité entre ces événements et la perte de son enfant. De son côté, la policière mise en cause conteste ces accusations. Il s'agit maintenant d'établir les faits. Et pour cela, les enquêteurs ont plusieurs vidéos en leur possession, celles de témoins, celles de vidéosurveillance du centre commercial sous différents angles, mais aussi une caméra piéton d'un policier qui a enregistré du son. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun coup n'aurait été porté, la brutalité de la scène reste à établir et le corps du bébé a aussi été autopsié.
Gladys Laffitte. La mort à 82 ans de Maurice Agnolet, l'ancien avocat niçois condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat d'Agnès Leroux, l'héritière du palais de la Méditerranée, au cœur d'une guerre des casinos. Agnès Leroux disparue à la Toussaint 77, son corps n'a jamais été retrouvé, mais Agnolet, son amant, avait fini par être condamné 37 ans plus tard, en 2014, 2014. Il était sorti de prison à la veille de Noël pour raison de santé, avait rejoint son fils en Nouvelle-Calédonie et c'est là qu'il vient de mourir d'un arrêt cardiaque. À Washington hier soir, des flonflons, des stars, mais pas de public pour célébrer l'investiture de Joe Biden. Le nouveau président a dans ses premières heures multiplié les symboles de rupture avec son prédécesseur. Alexis Guillot, c'est une forme de retour à la normale qui s'opère à Washington.
Oui, et un des symboles de ce renouveau, c'est le retour des conférences de presse quotidiennes à la Maison Blanche. Le ton a été donné hier soir par Jen Psaki, la porte-parole de la nouvelle administration. Il y aura des moments où nous verrons les choses différemment dans cette salle. Ce n'est pas grave, explique-t-elle aux journalistes. Cela fait partie de notre démocratie et le rétablissement de la confiance avec le peuple américain sera chaque jour au centre de nos préoccupations au bureau de presse et à la Maison Blanche. Un changement radical. Souvenez-vous, il y a 4 ans, lors de sa première conférence de presse, le porte-parole de Donald Trump avait déclaré qu'il n'y avait jamais eu autant de monde à une investiture, point à la ligne, malgré toutes les photos qui montraient le public clairsemé devant le Capitole.
Un changement de ton avec la presse, donc. Alexis, que sait-on des premières journées de mandat de Biden ?
Eh bien, d'après le programme officiel, l'accent va être mis aujourd'hui sur la lutte contre la pandémie. Dans l'après-midi, le président signera de nouveaux décrets pour amplifier le combat contre le coronavirus et il détaillera sa stratégie pour accélérer la vaccination. L'objectif, c'est 100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours de mandat, c'est-à-dire d'ici fin avril. Demain, Joe Biden s'attaquera au volet économique de la crise en se penchant notamment sur l'aide aux plus démunis. Enfin, la porte-parole de la Maison-Blanche a également annoncé que le premier entretien avec un leader étranger aura lieu demain vendredi. Ce sera un appel téléphonique avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. Et enfin, un détour au rayon appareil ménager d'Europe Midi, section robot de cuisine. Avec cette question, le très populaire Monsieur Cuisine de Lidl pourrait-il être interdit à la vente en France? En tout cas, la justice espagnole vient d'ordonner à la marque de retirer son robot de rayon pour avoir copié son concurrent beaucoup plus cher Thermomix, Carole Ferry?
Oui, en fait, c'est la maison mère de Thermomix en Allemagne qui a porté plainte dans plusieurs pays pour violation de la législation sur la protection des brevets. Et je peux vous confirmer, c'est une information Europe 1, qu'il y a une procédure en cours également en France. Mais la justice espagnole a donc été la première à réagir et elle a conclu que oui, Lidl s'était beaucoup trop inspiré du Thermomix pour fabriquer son robot maison en reprenant quasiment toutes les caractéristiques. Sauf que le robot de Lidl est vendu 399 € contre 1200 à 1400 pour le Thermomix. Mais chez Thermomix, vous avez une centaine de salariés qui ne travaillent que sur la recherche de ces innovations et forcément ça a un coût. La sanction est tout de même très lourde. La justice espagnole demande à Lidl de stopper la vente de ses Monsieur Cuisine, mais elle lui interdit également d'écouler le reste de ses stocks, même gratuitement, même dans un autre pays. Par ailleurs, Lidl devra indemniser Thermomix à hauteur de 10% du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de ce robot cuisine. Et vu son succès, bien le montant pourrait être assez élevé. Lidl a toutefois encore la possibilité de faire appel.
C'est le Dallas des robots de cuisine. Merci à vous, Carole Ferry. Deux nouvelles de sport. Les JO de Tokyo auront bien lieu cet été. Il n'y a pas de plan B, déclare le président du CIO, Thomas Bach. Et puis Noël Le Graët, 79 ans, candidat pour un 4e mandat à la tête de la Fédération française de football. C'est officiel. Le temps, Anissa Adadi, la pluie au programme de l'après-midi.
Oui, les perturbations, Patrick, s'enchaînent les unes après les autres sur le pays. Cet après-midi, nous avons une nouvelle perturbation de la Bretagne au Pays de la Loire et même jusqu'au Poitou-Charentes. Il pleut donc sur toutes ces régions, des pluies qui sont accompagnées de vents forts jusqu'à 100 km/h. Et puis, en fin de journée, dans quelques heures, ces fortes pluies, accompagné du vent toujours, arrive sur la région parisienne et le Grand Est tout au long de la nuit. Ça va durer encore comme ça pendant plusieurs jours, hein, cet enchaînement de perturbations et de dépressions. À l'avant de la perturbation, de l'Alsace à la Provence, là le ciel est couvert avec des petites averses. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec. Les températures sont toujours douces, avec 8 degrés cet après-midi pour Aurillac, 10 à Lille et Strasbourg, 11 à Clermont-Ferrand, 12 pour Paris, 13 à Lyon et Nice, 14 à Bordeaux, 15 pour Biarritz et Montpellier. Et la maximale est prévue en Corse pour Bastia et Ajaccio.
Merci à vous, Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, invité d'Europe Midi, Thomas Lilti, cinéaste et médecin ou ancien médecin et cinéaste, il nous le dira, réalisateur de la série Hippocrate ou de Première année au cinéma. Il a retrouvé sa vocation de médecin pendant la crise sanitaire. Il le raconte dans un livre. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
Profession?
C'est très difficile pour moi de répondre. Je crois réalisateur.
Oui. Pour la loi et surtout pour le Conseil de l'Ordre, vous êtes ancien médecin. Mais dans votre tête, ce que vous écrivez dans votre livre, vous vous sentez toujours médecin?
Oui, je me sens toujours médecin parce que j'ai 44 ans, que j'ai commencé à faire de la médecine juste après le bac et ça a été 15, presque 20 ans de ma vie. Donc c'est le métier que j'ai appris, donc évidemment que je me sens médecin.
Après 10 ans d'études, alors qu'auteur et cinéaste, vous n'avez jamais été formé pour ça?
Non, j'ai pas été formé. Et puis c'est vrai que je parle beaucoup de médecine, de santé, d'institutions hospitalières à travers mes films ou la série Hippocrate. Donc obligatoirement, il y a quelque part, la médecine me hante toujours.
Donc, en mars dernier, vous voici en train de tourner une série télé avec de faux médecins, des acteurs, à côté d'un vrai hôpital. Et quand la crise éclate, vous dites que votre devoir ou votre place, c'est d'être aux côtés des vrais médecins.
Oui, alors je ne sais même pas si c'est un devoir. Je ne suis pas convaincu que ce soit ma place, mais en tout cas, je me suis senti totalement... Je n'ai pas réfléchi, quoi. J'ai senti qu'il y avait besoin d'aide. J'ai été formé comme médecin. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas aller aider. Puis ensuite, en retournant à l'hôpital, à l'intérieur des urgences de l'hôpital où je suis allé travailler, l'hôpital Robert Ballanger, obligatoirement, je me suis retrouvé confronté à tout ce que j'avais vécu quelques années plus tôt. Et puis ce mélange entre la fiction, que ces faux médecins dont vous parlez, et ces vrais soignants qui étaient là dans la difficulté de la gestion de cette crise sanitaire.
Avec des sentiments... contradictoire, partagé, on va y revenir. Ça donne donc ce livre Le Serment chez Grasset, qui est à la fois un récit et une introspection. Pourquoi je fais du cinéma alors qu'on a plus besoin de médecins que de cinéastes? On va y revenir. Comme vous êtes revenu depuis au tournage, au cinéma, enfin à la télé, vous avez repris le tournage d'Hippocrate.
Je l'ai repris, je l'ai terminé, oui.
Et c'est terminé, donc diffusion bientôt.
Diffusion en mars.
En mars,
fin mars,
saison 2, donc sur Canal+. Hippocrate, série à grand succès, comme vos films Médecins de campagne, première année, mais pas du tout chez les médecins. C'est l'un des traits qui vous frappe lors de votre réimmersion dans ce milieu. Les médecins ne sont généralement pas tournés vers le monde de la culture. Ils ne voient pas de films, ils ne lisent pas de livres.
Oui, évidemment, il ne faut pas généraliser, parce que sinon ce serait une caricature. Mais c'est vrai que... Certainement, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça s'explique du fait que les médecins ont quand même des horaires de travail énormes. Deuxièmement, je pense qu'il y a une petite déformation professionnelle d'être très tourné sur eux-mêmes et que obligatoirement un peu moins ouvert peut-être sur le monde que d'autres professions. Les médecins hospitaliers, beaucoup d'entre eux sont aussi des médecins étrangers qui, pour certains d'entre eux, sont tournés vers la culture, mais pas obligatoirement la culture française, vers d'autres formes de culture, ce qui est très bien aussi. Bon, pour plein de raisons comme ça, je me rends compte que les médecins ne sont pas toujours au fait de l'actualité culturelle, contrairement aux soignants en général. Moi, je suis beaucoup plus...
Populaire chez les soignants. Oui, oui, ouais. Il y a des scènes dans votre livre. Populaire, il y a même un soignant qui alpague un médecin. Mais c'est le réalisateur d'Hippocrate. Et puis vous êtes gêné parce que vous n'avez pas envie de vous faire remarquer.
Évidemment, mais c'est vrai que je suis plus populaire, mais aussi parce que je suis beaucoup plus tendre avec les soignants en général, et notamment les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les internes, les étudiants en médecine, qu'avec les médecins installés. Contre qui je garde certainement encore une petite dent, c'est vrai.
Ah ben vous êtes, on peut le dire, accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Ces médecins qui réclament de l'aide, qui ne sont pas assez nombreux, en mars-avril, certains se demandent ce que vous faites là.
Oui, alors certains m'accueillent très bien. Il faut que je rende hommage quand même à ceux qui m'ont accueilli très, très gentiment. Mais il y a quand même une petite méfiance, voire presque une petite défiance sur qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il vient chercher, c'est quoi l'utilité. Et je ne peux pas leur en vouloir, puisque ce sont des questions que je me suis moi-même posées. Donc c'était légitime qu'ils se la posent. Après, sincèrement, j'étais juste venu prêter main forte, amener deux bras, deux jambes, et puis peut-être quelques souvenirs de médecine.
Une bonne partie de votre livre, Le Serment, Thomas Lilti, creuse ce phénomène de fascination, répulsion que vous éprouvez pour ce métier. Dès votre première journée aux urgences, vous dites à votre compagne au téléphone, je sais pourquoi j'ai autant d'affection pour les soignants et je sais aussi pourquoi ce métier, ce milieu m'était insupportable.
Oui, je crois que ce qui me passionne dans ce métier, et notamment dans le monde hospitalier, ce monstre qu'est l'hôpital, c'est le travail collectif, c'est ce mélange de classes sociales, de savoirs différents, ça me passionne. Et puis l'abnégation des soignants, sincèrement, c'est quelque chose d'incroyable, notamment pendant la crise sanitaire, mais qui est vrai, de toute façon, au quotidien, avec un hôpital qui c'est un délitement de l'hôpital, des moyens, des conditions de travail, oui. Et pourtant, il y a une abnégation, une opiniâtreté dans le travail. Et en revanche, et là, c'est moins lié aux personnes, c'est lié à la pratique médicale, c'est violent, c'est dur, confronté à la maladie, à la mort. la responsabilité, la culpabilité que ça engendre. C'est vrai que j'étais peut-être pas prêt, peut-être pas la personnalité pour le caractère, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti là, mais que j'ai toujours connu en fait, de ne pas être à ma place. Parmi les soignants, c'est quelque chose que je ressens depuis mes études.
Bien sûr, la maladie, la mort, c'est violent, mais il y a quelque chose en plus, une dureté, une brutalité à la fois dans les études de médecine et dans les rapports hiérarchiques que vous avez mis en scène au cinéma. Et vous le retrouvez encore aujourd'hui à l'hôpital.
Oui, c'est un milieu qui est hiérarchisé. Mais bon, la hiérarchie, elle ne me fait pas particulièrement peur. Le cinéma aussi est hiérarchisé. Mais il y a une histoire de la transmission du savoir qui se fait brutalement à l'hôpital notamment et dans les études de médecine en général. Je l'ai constaté, beaucoup d'étudiants le constatent et ça vient rajouter une forme de souffrance à déjà un métier difficile.
Et que vous avez peut-être produit vous-même sur les plateaux de cinéma. En tout cas, vous avez l'honnêteté de rapporter les réactions que suscite votre façon de travailler sur les plateaux.
Bah une question qui revient souvent, c'est est-ce que vous faites du cinéma comme un médecin ? Et alors, c'est difficile de répondre à ça, mais peut-être qu'en effet, dans cette façon un petit peu, parfois un peu autoritaire, voire totalitaire, de diriger le plateau, il y a peut-être un peu le médecin qui s'exprime.
Ouais. Il y a aussi, chez les médecins, ce que vous pointez comme une forme d'égoïsme. Vous pensez, vous, qu'après 10 ans d'études publiques, les médecins devraient être affectés d'abord là où ils sont utile, c'est-à-dire dans les déserts médicaux, et la profession, dans sa grande majorité, répond pas question.
En tout cas, il y a un grand paradoxe. On nous dit qu'on forme assez de médecins en France, et pourtant, tout le monde peut constater qu'on manque de médecins dans les hôpitaux publics. Une majorité, notamment dans les services d'urgence, de médecins sont des médecins à diplôme étranger. On manque clairement de médecins en monde rural, et même en banlieue, même maintenant dans le centre des grandes villes. Donc pourquoi ? On nous dit qu'on a assez de médecins, donc je ne comprends pas. Donc c'est que les médecins ne sont pas installés au bon endroit. Donc comment on fait ? Il faut laisser la liberté d'installation ou à un moment donné, on pourrait imposer aux médecins s'installer ? Il y a énormément de professions, notamment de professions qui sont liées au service public, qui n'ont pas la liberté d'installation. Les profs, ils ne peuvent pas aller dans le collège ou dans le lycée qu'ils souhaitent après leurs études. Donc pourquoi pas imaginer quelques années, en effet, dans des zones un petit peu plus déshéritées.
Il est clair qu'on n'a pas assez formé de médecins. Il y a l'effet du numerus clausus qui s'est prolongé pendant de longues années. Et puis, ça a été beaucoup dit, mais évidemment, c'est très frappant en vous lisant, en retrouvant la blouse blanche à l'hôpital de Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, vous découvrez la pénurie, un hôpital qui s'est considérablement paupérisé.
Je découvre la pénurie, c'est vrai, ça a été beaucoup dit. Je sais que cette pénurie, elle existe bien avant de la crise sanitaire, mais ce que je découvre surtout, c'est le manque de moyens et le manque de personnel. La difficulté pour trouver des médecins, pour trouver des soignants, pour avoir assez de monde. Et ça, c'est terrible, et c'est ce qui engendre particulièrement cette fameuse souffrance au travail, on en parle souvent. Ce n'est pas des soignants qui travaillent trop. Il y a plein de gens qui s'éclatent dans leur métier en travaillant 20 heures par jour. Et il y a plein de soignants qui adorent travailler. Le problème, c'est que quand on fait mal son travail parce qu'on n'a pas les moyens de bien le faire, ça engendre énormément de souffrance. Et ce que j'ai constaté en arrivant à l'hôpital, c'est combien les gens étaient motivés pour bien faire leur travail et comment ils étaient empêchés pour bien le faire.
Et puis l'informatisation à outrance qui pompe un temps fou aux équipes parce qu'il faut remettre le dossier médical à jour. Et puis la bureaucratie, le formalisme du Conseil de l'Ordre dont vous avez été victime puisque vous avez dû cesser votre bénévolat au bout de 4 semaines parce que vous n'aviez pas cotisé. Bon, c'est un livre qui ne va, vous le dites d'ailleurs plusieurs fois, vous ne va pas vous faire que des amis dans ce métier. Il y a déjà des réactions depuis sa parution il y a quelques jours ?
Oui et non, mais oui, il y a des réactions, mais je crois que c'est toujours les mêmes ennemis. C'est surtout, faut être, quand on est médecin, alors c'est le vrai problème, en fait, c'est ma position. C'est-à-dire que moi, je suis coupable de ne plus pratiquer la médecine. Et puis, en même temps, je critique l'institution, le système. Je peux parfois me montrer un peu dur avec les médecins eux-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est logique et légitime que je me fasse à mon tour critiquer.
Thomas Lilti, Le Serment chez Grasset et Hippocrate, la série saison 2 à partir de mars sur Canal+. Merci beaucoup d'être venu en direct dans Europe Midi.
Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le 13h avec Christophe Lamarre dans un instant, puis La France bouge. Bonne journée.